Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de la Grande Table, aujourd'hui, il sera question d'intervention militaire, de droits humanitaires et de protection des populations. Alors que dans la Ghouta orientale, une enclave rebelle proche de Damas, le drame humanitaire se poursuit, les civils sous les feux du régime. Que fait la communauté internationale? Invité, le juriste et géopolitologue Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, co-auteur d'un dictionnaire de la guerre et de la paix, publié au PUF, à retrouver à partir de midi 55. Mais d'abord, passion Debussy. Il le joue depuis toujours, vient de participer au disque hommage Debussy French Touch et consacre aujourd'hui au compositeur de Prélude à l'après-midi d'un faune, une biographie aussi savante qu'accessible chez Actes Sud, producteur sur France Musique les samedis matins, de Portraits de famille, interprète réputé de Schubert et Debussy, le pianiste Philippe Cassard est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Philippe Cassard.
Bonjour.
Il n'y a pas d'école Debussy, je n'ai pas de disciple, je suis moi. Après avoir mis ces mots du compositeur extrait de sa correspondance en exergue de la biographie que vous lui consacrez, Philippe Cassard, difficile de vous revendiquer disciple. Alors quoi ? Compagnon ?
Ah, c'est un compagnon de route, on peut dire ça comme ça. Oui, ça commence quand on est enfant. Alors c'est toujours très intimidant quand on est enfant de jouer les grands compositeurs, hein, quand on a 6 ou 7 ans, ça m'est arrivé. Et puis petit à petit on chemine avec lui, avec nos professeurs qui ont chacun un regard différent, une approche différente. Et puis on se l'approprie peu à peu, on vole de ses propres ailes et puis on s'immerge. Ça c'est ce processus d'immersion mais très très cher parce que je le fais aussi d'une certaine manière avec Schubert. Mais avec Debussy encore plus parce que j'ai quasiment... Enfin, c'est souvent un peu vaniteux, mais c'est la réalité simplement. C'est que j'ai à peu près tout joué. Je crois que chaque note de piano qu'il a pu écrire est passée sur mon pupitre. Ça ne veut pas dire que je l'ai joué en public, mais j'ai à peu près tout regardé, tout lu, tout déchiffré, tout ausculté ce qu'il a écrit avec du piano. Et puis, évidemment, les choses aussi d'orchestre et des opéras. Alors, enfin, l'opéra Péléas.
Et vous qui avez tout joué, est-ce qu'il a beaucoup écrit ?
Ah, énorme, oui. Oui, parce que il a commencé à écrire en 1876-17, il est mort en 1918 sans écrire trop les deux dernières années de sa vie, donc vous voyez, ça laisse à peu près une trentaine d'années. Et en 30 ans, oui, il a énormément écrit. Alors, pas d'œuvre monumentale au sens où certains de ses contemporains, Saint-Saëns, produisaient comme ça des opéras, parce que ça rapportait beaucoup, beaucoup d'argent aussi d'écrire des opéras. Lui a plutôt produit en nombre, mais en qualité. Il y a très, très peu d'œuvres vraiment dont on peut dire qu'elles sont faibles chez Debussy. Même dans ses années de jeunesse, une pièce comme Clair de Lune ou La Première Arabesque, qui sont vraiment des œuvrettes, c'est des petits bijoux en soi.
Debussy forever, peut-on dire, avec vous Philippe Cassard. Et Debussy depuis toujours, tout a commencé au coin, dans le coin des enfants, et pour vous devant un piano avec...
Thank you.
réalité, vous avez commencé sur Le Petit Berger du Children's Corner de Debussy. Premier morceau joué au piano à l'âge de 7 ans, composé par Debussy entre 1906 et 1908. Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Il l'a dédié en tout cas à sa fille du compositeur. Ça, vous le racontez dans cette biographie Claude Debussy que vous lui consacrez chez Actes Sud. Un morceau assez féerique. Là, c'est vous au piano.
Oui, hein, oui.
Extrait de votre intégrale Debussy, paru chez Decca sur un vieux piano.
Alors, un vieux
piano. Là, vous n'avez pas 7-8 ans.
Âgé. Hein. Mais c'était un Bechstein de 1898. On sait que Debussy aimait les pianos allemands pour leur résonance, pour leur puissance, pour le côté très orchestral. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il les préférait aux pianos français. À l'époque, il y en avait beaucoup, les Gaveau, les Pleyel, les Erard. Mais j'ai joué récemment à Montréal 7 pièces qu'on a entendues sur un Erard 1859. Absolument sublime, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie professionnelle. Et je me suis dit que Debussy lui-même, quand il était adolescent, puisqu'il est rentré au Conservatoire de Paris, il avait 13 ans, 12 ans, eh bien, il a probablement joué sur ce type de piano. En 1875, il y avait encore au Conservatoire de Paris des pianos de 1859. Et ça a été une espèce de rencontre incroyable en me disant, voilà, Debussy a nourri son imaginaire, a construit sa culture sonore, son imaginaire sonore sur ce type de piano. Et c'est tellement joli, le son d'ailleurs de ce Bechstein est sublime.
Cette biographie, Claude Debussy, est faite de fragments, Philippe Cassard, et vous commencez par mettre en miroir votre jeunesse avec Debussy, vos premières notes au piano, cette interprétation donc de Children's Corner que votre professeur vous faisait jouer avec ses années d'apprentissage à lui. Il faut dire que ce n'était pas non plus un élève brillantissime, repéré par tous, un talent en germe quand il commence à apprendre, il est même plutôt autodidacte, assez indiscipliné.
Oui. Mais très vite, vous savez, c'est d'abord un enfant qui n'est pas allé à l'école. Sa mère lui a donné des cours, donc l'orthographe de Debussy est resté assez indécis jusqu'à la fin de sa vie. Et autodidacte, c'est vrai. En même temps, il a eu de la chance avec ses professeurs de piano. Il a eu de la chance. Il a eu de mauvais professeurs au Conservatoire de Paris, mais pas en piano. Il avait Marmontel, qui était le grand professeur de piano, qui a tout de suite repéré le musicien plutôt que le virtuose. Et qui a très bien compris qu'il n'en tirerait rien au niveau du brio. Voilà, il y avait des virtuoses incroyables à l'époque. Lui, il n'en faisait pas partie de Debussy. Mais tous les témoins de son jeu disent, attestent qu'il avait un art de chanter au piano, d'avoir une sonorité douce, moelleuse, profonde, un beau toucher. Et ça, il l'a cultivé toute sa vie. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important ?
Et ce toucher, c'est aussi quelque chose qu'il a transmis ensuite, quand lui est devenu prof de piano.
Il n'a pas enseigné le piano, Debussy.
Il l'a pas du tout.
Ah non, du tout, du tout. Il a conseillé les interprètes de sa musique, Ricardo Vignes notamment, certainement Marguerite Long qui est venue lui jouer des choses. Enfin, beaucoup de pianistes, Alfred Cortot, ont joué ses œuvres. Il les conseillait, mais en fait, très à la marge, il n'y a pas de traces dans sa correspondance vraiment où il parle, sauf en mal d'ailleurs, des interprètes qui jouent sa musique. Il trouve toujours qu'ils ne sont pas assez précis, qu'ils ne sont pas assez maniaques comme lui l'est avec le texte musical, la partition.
Mélodie et poésie, Mallarmé, Charles Cros, il met les mots des poètes en musique, ceux de Verlaine surtout, et ça c'est le troisième chapitre de votre biographie. Verlaine qui entre dans sa vie en 1882, il va mettre en musique et produire, composer ses Ariettes oubliées et les Fêtes galantes, puis il y aura aussi Baudelaire et des poèmes extraits des Fleurs du Mal. Je vous propose d'écouter un extrait du Jet d'eau, toujours sous vos doigts. Philippe Cassard.
Thank you.
Philippe Cassar au piano, Stéphanie Doustrac pour la voix que l'on entend. Alors il a mis en poème Debussy, les mises en musique, les poèmes de Baudelaire, Le Balcon, Harmonie du soir, Le jet d'eau qu'on vient d'entendre, Recueillement, La mort des amants. Tout ça des poèmes extraits des Fleurs du Mal. C'était un grand mélodiste, Debussy.
Fabuleux, fabuleux. On a souvent dit, ah mais c'est Gabriel Fauré, Henri Duparc, sont les grands mélodistes de la deuxième moitié du XXe siècle, moi, du XIXe siècle, pardon. Moi, j'y inclus absolument Debussy. Alors, je vais un peu prêcher pour ma paroisse parce que il y a des parties de piano hallucinantes. Là, on vient d'entendre. Enfin, c'est un délire. C'est tellement beau. C'est d'une telle sensualité. C'est opulent. C'est luxuriant. Et il est dans sa pleine période wagnérienne, là, Debussy. Il est rentré de Bayreuth. Il est complètement ébloui. Il n'a pas encore ce regard un peu sarcastique sur la machine à trucs, comme il se plaisait à décrire les opéras de Wagner. Mais, donc, le piano est ivre de sonorité et la voix, elle flotte au milieu, le piano, il y a des entrelacs comme ça, c'est comme une liane, et alors complètement vénéneuse presque. Et moi je trouve que justement ce qu'il cherche dans ses mélodies, c'est à échapper à la grande mélodie romantique française, vous savez, comme ça, un peu officielle, un peu pontifiante. Il y a quelque chose de très naturel, de très doux, de très tendre dans cette manière de traiter la voix. Et tout ce travail, peu à peu, il n'en est peut-être pas encore conscient quand il écrit ses mélodies, qui date de la fin des années 1880, mais ça va participer à ce qui va aboutir à Pelléas et Mélisande, c'est-à-dire un retraitement, si j'ose dire, complet de ce qu'est une voix lyrique. C'est-à-dire non plus dans une expression romantique, quelquefois outrée, surjouée, mais dans le prolongement d'une voix parlée. Simplement, on y ajoute la vibration du chant.
Il faudrait qu'on en écoute un extrait, alors, de cet opéra, de son opéra.
Ah bah pourquoi pas?
Pour comprendre ce que vous
nous dites. J'adore Pelléas.
On va écouter dans quelques instants un extrait de Pelléas composé par Debussy. Sous la baguette de...
Nous sommes venus ici il y a bien longtemps, je me rappelle. Il y a de longs mois, alors je ne savais pas. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire.
Mais non, je ne sais rien.
Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que...
Je t'aime aussi.
Oh, qu'as-tu dit, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la glace avec des fers rougis. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes aussi. Depuis quand m'aimes-tu?
Depuis toujours. Depuis...
un des plus grands interprètes de Péléas, François Leroux, baryton, nominé d'ailleurs comme artiste lyrique aux prochaines victoires de la musique. Et il vous aura fallu, c'est dommage que le micro ne soit pas resté allumé, à peine 4 secondes pour reconnaître, je ne sais pas si c'est l'interprétation ou la direction en tout
Leroux.
Cas, de
François,
Abado.
M'avez-vous
dit Abado, Abado ?
Oui, François. Mais ce qui est intéressant, d'abord, c'est lui, Leroux est génial. Enfin, c'est un des plus grands Péléas de toute l'histoire. Avec maintenant, il y a Stéphane Degout. Avant lui, il y avait Camille Morane. Enfin, il y a une lignée comme ça de chanteurs français absolument fabuleux, parce que c'est tellement naturel, c'est tellement tendre aussi, cette manière de dire la langue française. Et puis alors, derrière, il faut quand même signaler que c'est pas un orchestre français qui joue, c'est l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et pour moi, c'est très important de dire aux mélomanes que il n'y a pas de tradition, il n'y a pas d'école française. L'Orchestre Philharmonique de Vienne, il joue Debussy comme s'il était à la maison, avec des sonorités capiteuses, ensorcelantes, et Abado donne à ce Péléas une direction, un flux, une énergie absolument extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles versions, et même la Mélisande de Maria Ewing, qui a été très critiquée à l'époque pour son français, parce que c'est pas parfait, mais quand même, quelle voix, quelle sensualité aussi dans sa voix, quelle fraîcheur. Tous les deux, ils ont l'air d'être étonnés d'être au monde, presque.
Et quand cet opéra est composé, et quand il est créé, monté pour la première fois en 1902 à l'Opéra Comique, comment est-il reçu ?
Alors, j'y consacre tout un chapitre, parce que alors ça a été préparé. Hein. Il faut dire que pendant des années et des années, Debussy est passé d'un salon à un autre dans la Bonne Société parisienne pour présenter des bouts de Péléas. Alors, il chantait tout à la fois, il était au piano, et donc il y a eu quand même un public, un fond de public qui a assuré le triomphe de Péléas. Alors, c'est très simple, ça existe un peu toujours maintenant. D'un côté, vous aviez les critiques musicaux rémunérés des journaux qui ont tous, mais alors comme un seul homme, démoli l'œuvre avec des arguments d'une stupidité, d'une bêtise et d'une fatuité hallucinante. Et puis de l'autre, vous aviez les musiciens. Et les musiciens, que ce soit Fauré, Vincent Dindy, Paul Ducard, Arturo Toscanini, Pierre Monteux, enfin, la liste est interminable, ils ont tous reconnu le chef-d'œuvre. Tous. Toscanini a été le premier chef étranger à le diriger en 1908 et à porter la bonne parole de bussiste dans le monde entier, pas seulement avec Péléas, mais avec La Mer, avec Iberia, dont il a été un des interprètes les plus extraordinaires. Donc Péléas, de toute façon, appartient maintenant à l'histoire. Et ce qui me frappe, c'est comme quand on écoute le Sacre du Printemps de Stravinsky, ce sont des œuvres qui n'ont pas vieilli, qui continuent leur histoire, qui nourrissent les interprètes et qui nous disent que finalement, la modernité, ça, c'est un mot un peu vain. C'est juste le chef-d'œuvre. Et puis on l'admire comme on admire encore aujourd'hui le David de Michel-Ange.
Modernité, le mot est tombé. Debussy, comme Baudelaire, est quand même à l'époque un symbole de modernité. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il déplaît à une frange de ses contemporains. Lui. Et une fois encore, c'est une phrase que vous mettez en exergue, lui prétend ne rien avoir révolutionné, ne rien avoir démoli. C'est pas votre avis, visiblement, c'est pas non plus l'avis du chef d'orchestre, Pierre Boulez, pour qui il a beaucoup innové.
Quand vous parlez de poésie, par exemple, vous savez très bien que la poésie, la modernité de la poésie commence avec Baudelaire. Et vous ne pouvez pas éviter, il y a un moment donné où il y a ce qu'il appelait du reste lui-même des phares. Et il y a des hommes qui sont des phares de la culture. Et Debussy en est un, comme Baudelaire en a été un. Par exemple, dans la forme de la musique, dans la trajectoire du genre musical, Debussy a beaucoup innové. Par exemple, les symphonies de Mahler, j'entends les premières symphonies de Mahler surtout, bon, il y a encore tout le schéma classique. Tandis que chez Debussy, il évite au contraire ces formes-là. Il n'essaye pas de les détruire, même il les ignore presque, pratiquement. Et une œuvre comme « Jeu » ignore totalement, disons, le format symphonique. Et c'est ce qui fait son intérêt. Et curieusement, c'est probablement parce qu'il y a eu de la musique de ballet qui a fait que Stravinsky et Debussy ont trouvé des formes qui leur étaient propres, parce qu'il y avait une histoire qui les aidait.
La modernité, l'innovation façon Debussy, elle se niche où, surtout pour vous, Philippe Cassat ?
Péléas, on en a parlé. Boulez vient de le dire d'une manière comme toujours fulgurante. Je dirais La Mer aussi, Nocturne, enfin toutes ces pages symphoniques. La Mer, c'est... Il lance des correspondances à venir avec les fauvistes, par exemple. Et on n'est qu'en 1903.
La mer, on l'a aussi dirigée par Pierre Boulez. On peut peut-être écouter quelques extraits, quelques notes de cette œuvre qui, pour vous, correspond le mieux au tempérament aussi d'un Debussy.
Oui, parce que c'est l'ambivalence debussiste, c'est-à-dire à la fois l'idée des abîmes, quelque chose de sombre, de quelquefois triste, et puis la lumière, une espèce de joie dionysiaque comme ça qui s'empare de l'orchestre, une énergie incroyable et la maîtrise du temps, la maîtrise du tempo, ce que Yankelevitch appelait quelquefois avec Debussy la mobilité mobile, l'immobilité mobile ou la mobilité immobile. Enfin, ça, Debussy l'a magnifiquement réalisé dans La mer plus que dans toute autre pièce.
On a évoqué son tempérament, Philippe Cassard, celui de Claude Debussy. On a évoqué l'influence de la poésie pour lui. On n'a pas encore parlé de l'importance de l'art. C'était un collectionneur d'art et vous le rapprochez aussi des grands peintres comme Turner pour son imagination fantasmagorique. Comment est-ce qu'il va s'inspirer du vocabulaire de la peinture? Quelle correspondance avec la palette des grands peintres?
En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que il n'est pas le compositeur impressionniste, entre guillemets, qu'on a bien voulu voir et on a voulu limiter à cela. Non, Debussy est davantage et avant tout, pour moi, l'accompagnateur du mouvement symboliste. Sa rencontre avec Mallarmé, mais avec les peintres symbolistes, que ce soit Knopf, que ce soit Gustave Moreau, Dylan Redon et Whistler, qui participait aussi au mardi de Mallarmé, et Turner. Et c'est cette manière, je pense, qu'il a de composer, c'est-à-dire le flou chez Debussy est composé avec une méticulosité fanatique. C'est-à-dire qu'une teinte floue, une teinte sonore, une couleur sonore un peu vague, c'est des milliers de notes très précises, d'indications de pédales, etc., des touchés très très précis. Comme Turner, c'est-à-dire que la buée chez Turner, le lever de soleil sur le château de Norham, où on voit comme ça, où les lagunes vénitiennes, c'est fait avec une précision absolument maniaque, enfin obsessionnelle, comme était d'ailleurs le dessinateur Turner quand il était jeune.
Les voyages, les poètes, la peinture et les femmes. On n'a pas encore quand même parlé de l'influence des femmes, et j'y tiens, de son premier amour, une femme mariée, plus âgée, la soprano Marie Vanier, puis Gabrielle Dupont, puis il va finir par se marier avec la mannequin Lily Texier, une histoire qui se terminera très mal. Sa relation avec les femmes, que ce soit des femmes amoureuses ou des interprètes, comme Marie Gardon, dont vous dites qu'elle était peut-être celle qui avait le plus de sex appeal, comment l'ont-elles toutes influencée? C'était un grand amoureux et ça se retrouve dans sa musique.
Oui, je ne sais pas si aujourd'hui Debussy n'aurait pas d'ennui parce qu'il avait quand même une attitude très lâche avec les femmes. Alors c'était un consommateur de femmes, un grand amoureux aussi certainement, un amant qui s'auto-célèbre dans L'île joyeuse de Debussy, qui est un hymne à son amour éperdu pour Emma Bardach, avec qui il se marie et avec qui il a une vie de famille officielle, on va dire. Néanmoins, c'est vrai que même si le personnage de Debussy m'est très sympathique, justement, justement par son indépendance farouche vis-à-vis des règles, vis-à-vis des lois, des institutions. C'est un homme qui, dans la vie privée, est souvent décevant, petit, lâche, comme je l'ai dit, et menteur, enfin dissimulateur. Maintenant, je trouve quand même très savoureux cette aventure, cet adultère, c'est-à-dire Marie Vanier, mère de famille, mariée, etc., et qui vit avec lui pendant 4 ans une relation. Lui, il est tout jeune homme, elle a 10 ans de plus que lui quand même.
Votre choix, avant de nous quitter, Philippe Cassard, il y avait 2 versions des préludes, l'une par Vladimir Horowitz, une par Dino Ciani. On va écouter quelques notes, si vous voulez bien, de celles interprétées par le pianiste, donc Vladimir Horowitz, et vous nous expliquez pourquoi vous avez eu ce coup de cœur. Cassard, le mot de la fin.
Ben Horowitz, c'est un génie de la couleur, un génie du jaillissement des sons, c'est la féerie, et là c'est l'effet son d'exquise danseuse, il est tout à fait dans son élément, c'est un des plus grands interprètes de Debussy, de toute l'histoire, je trouve. Voilà, c'est un joueur et un magicien.
Merci beaucoup Philippe Cassard, merci mille fois. Claude Debussy, votre essai biographique du maître et du compositeur est à retrouver chez Actes Sud, ainsi que les multiples interprétations que vous avez fait de ces pièces au piano. On retrouve toutes les références sur le site de La Grande Table sur franceculture.fr. Un grand merci à vous d'être passé autour de cette grande table avec Debussy.